Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. To Go et la conversation. Au programme, alimentation et cerveau, n'avalez pas tout ce qu'on dit. Voici ce que vous devez savoir sur les PFAS que l'on surnomme polluants éternels. Et voici pourquoi il est déconseillé de prendre une douche pendant un orage. Bonne écoute!
Alimentation et cerveau. N'avalez pas tout ce qu'on dit. Un texte de Louis Beurer, paru le 26 octobre 2021 dans To Go. On connaît déjà l'importance de l'alimentation sur la santé physique. Elle peut notamment permettre de réduire le risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète et d'autres maladies. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que l'alimentation a aussi des effets sur la santé du cerveau. Et non, il n'existe pas d'aliments miracles. Grâce au jingo, biloba, les pertes de mémoire et le manque d'attention sont choses du passé. Consommer du curcuma pour vaincre la maladie d'Alzheimer et le cancer. Adopter les baies de goji pour favoriser la santé de votre cœur et garder votre morale au beau fixe. Opter pour l'huile TCM, triglycéride à chaîne moyenne, et dites adieu à la maladie de Parkinson. Les affirmations comme ça sont légion. Avouez qu'on aimerait bien n'avoir qu'à intégrer des baies de goji dans nos smoothies et consommer une petite infusion de curcuma chaque soir pour que notre cerveau soit en santé. Malheureusement, aucun aliment, pas même un super aliment, ne peut nous offrir tous les nutriments dont notre corps et notre cerveau ont besoin pour bien fonctionner. On peut ajouter, si on le désire, certains de ces aliments ou suppléments dans notre alimentation. Attention à certains d'entre eux qui ont des contre-indications. Mais encore faut-il que cette dernière soit déjà équilibrée pour qu'il y ait des effets bénéfiques sur notre santé. Nourrir son cerveau à tout âge. L'alimentation est en effet cruciale pour la santé du cerveau. Avant même la naissance, les nutriments que reçoit le fœtus participent au bon développement de ses neurones. Chez l'adulte, des nutriments comme les acides gras polyinsaturés, oméga 3 et oméga 6, sont indispensables à la mémorisation et à l'apprentissage. L'alimentation reste tout aussi importante pour la personne âgée. Les oméga-3 et la vitamine A protègent les cellules du cerveau et permettent un vieillissement plus harmonieux. L'idéal est donc d'avoir une alimentation équilibrée, diversifiée, riche en fruits et légumes, faible en gras saturés et adaptée à son âge et à sa santé. Des aliments bons pour le cœur et le cerveau. Il n'existe évidemment pas de régime miracle qui pourrait annuler les effets du temps. Toutefois, certaines approches alimentaires se sont montrées très efficaces pour garder le cœur jeune. Pourrait-il en être de même pour le cerveau? C'est en partant de cette hypothèse que le réputé régime méditerranéen et le régime DASH, une approche riche en végétaux et faible en sel pour stopper l'hypertension, ont été combinés pour mener à la création du régime MIND, M-I-N-D. Mediterranean Dash Intervention for Neurodegenerative Delay. Les résultats se sont avérés très encourageants. En plus de protéger la santé du cœur, le régime MIND a montré son efficacité pour stimuler les capacités cognitives comme la mémoire, l'attention, la résolution de problèmes, l'apprentissage, etc. Selon le niveau d'adhésion à ce mode d'alimentation, on note une baisse de 35 % à 50 % du risque d'être touché par la maladie d'Alzheimer. Une autre étude dévoile que les personnes qui suivent les recommandations de ce régime pourraient avoir un âge cérébral de 7 ans et demi de moins, de quoi donner envie de l'adopter sur le champ. Au menu du régime Mind, quels sont les aliments Mind qui favorisent la bonne santé du cerveau? Les légumes verts, particulièrement ceux qui sont feuillus tels que le chou frisé, kale, les épinards, la roquette, les laitues. Les autres légumes, les petits fruits, les grains entiers, les lentilles, pois chiches, haricots rouges et autres légumineuses, le poisson, la volaille, les noix, l'huile d'olive. Et pour ce qui est de boire, le régime Mind encourage l'eau et les infusions, dont le thé vert, ainsi qu'un petit verre de vin par jour si désiré. Un mode de vie sain. Même si on ne suit pas un régime particulier, on peut tirer profit de divers petits changements qui permettent d'adopter de plus en plus d'aliments avantageux. On en vient ainsi à consommer moins de viande rouge et de desserts très sucrés, ainsi qu'à éviter les produits ultra-transformés. N'est-ce pas ce que le Guide alimentaire canadien nous invite à faire? L'alimentation n'est qu'un facteur parmi de nombreux autres pour aider l'esprit à se maintenir en santé. Avoir des interactions sociales et une vie stimulante et rester actif physiquement influence aussi grandement le rythme du vieillissement du cerveau. Alors, si bien manger aide à maintenir l'esprit en santé, bien manger en bonne compagnie aide encore plus. Bon appétit! Vous venez d'entendre « Alimentation et cerveau, n'avalez pas tout ce qu'on dit », un texte de Louis Beurer, paru le 26 octobre 2021 dans « To go ».
Voici ce que vous devez savoir sur les PFAS, que l'on surnomme polluants éternels. Un texte de Sébastien Sauvé et Marc-André Werner, paru le 20 décembre 2020 dans La Conversation. Les PFAS, produits chimiques toxiques, sont à l'origine du scandale en Virginie-Occidentale, décrit dans le film Dark Waters. Ils ont également fait l'objet du documentaire primé « The Devil We Know ». Que s'est-il passé? Une usine de production de PFAS a causé une vaste pollution de la région et affecté ses employés et les gens qui buvaient l'eau contaminée. Depuis ce scandale, les connaissances sur la toxicologie des PFAS, soit l'étude de leurs effets nocifs sur la santé, évolue constamment. Ces contaminants sont associés à une augmentation des concentrations sanguines de cholestérol, une réduction de la croissance fœtale, une diminution de la réponse immunitaire au vaccin et une augmentation des risques de cancer du rein. La liste des problèmes de santé causés par les PFAS continue de s'allonger au fur et à mesure que les études épidémiologiques s'accumulent. Experts en chimie de l'environnement et en santé environnementale, nous proposons d'apporter un éclairage sur la problématique des PFAS. Les multiples applications des PFAS. Le nom est plutôt rébarbatif et vient de l'anglais Per- and polyfluoroalkyl substances, soit des substances alkylées, per- ou polyfluorées. Les PFAS sont des molécules chimiques synthétisées en laboratoire. Elles sont composées, d'une part, d'une chaîne d'atomes qui a les mêmes propriétés que l'huile. Ces atomes rendent les PFAS particulièrement stables et difficiles à dégrader, de là leur surnom de polluants éternels, Forever Chemicals. D'autre part, les PFAS sont aussi constitués d'une partie qui aime l'eau et qui fuit l'huile. Cette dualité d'avoir un côté qui aime l'huile plus que l'eau et un autre qui aime l'eau et qui fuit l'huile, en fait un surfactant, soit une molécule qui fait le lien entre deux interfaces, huile et eau dans ce cas, et qui résiste aussi bien à l'eau qu'à l'huile. Par ailleurs, sa composition chimique lui confère des propriétés recherchées pour toutes sortes d'applications modernes. L'utilisation la plus connue des PFAS, largement abordée dans le documentaire « The Devil We Know », est celle d'antiadhésifs pour nos instruments de cuisson, les fameuses poêles en téflon. On les utilise également pour protéger nos meubles, tapis et textiles contre les taches, les produits de type Scotch Guard. Les PFAS peuvent être utilisés pour imperméabiliser une multitude de vêtements. Ils sont également présents dans certains cosmétiques dits hydrofuges ou résistants à l'eau, comme le fond de teint. Plusieurs papiers et cartons résistants à l'eau ou aux graisses sont aussi traités au PFAS et beaucoup de plastiques en contiennent. Une excellente façon d'augmenter son exposition au PFAS est de manger du maïs soufflé en sac chauffé au four au micro-ondes. Le sac est traité au PFAS pour résister à la graisse qui fait éclater le maïs. Bien entendu, tous ces produits risquent de se retrouver dans nos déchets. Conséquemment, les sites d'enfouissement représentent des sources potentiellement inquiétantes de PFAS. Finalement, les mousses anti-incendie formant une pellicule aqueuse qui sont utilisées pour combattre les feux à base d'hydrocarbures, pétrole, gaz naturel, représentent une source majeure de PFAS. Les endroits où ces mousses ont été utilisées font face à des problèmes de contamination au PFAS. On parle ici de la plupart des sites d'entraînement des pompiers, plusieurs aéroports et de multiples bases militaires. Contourner les règles. Les deux PFAS originaux, PFOS et PFOA, sont considérés comme des polluants organiques persistants et ont été bannis par la Convention de Stockholm. Malheureusement, l'industrie est ingénieuse pour contourner les règles en modifiant une portion de la structure chimique complexe des PFAS. Dans quel but? Celui de générer un composé aux propriétés industrielles et commerciales très similaires, mais qui échappent à la réglementation. Au fur et à mesure que les chercheurs et les agences gouvernementales de protection de l'environnement accumulent des données pour tenter de réglementer certains PFAS spécifiques, l'industrie a le beau jeu de changer de molécules et d'utiliser de nouvelles versions alternatives. Vous écoutez. Voici ce que vous devez savoir sur les PFAS que l'on surnomme polluants éternels, un texte de Sébastien Sauvé et Marc-André Werner, paru le 20 décembre 2020 dans La Conversation. Ainsi, sur les milliers de composés PFAS disponibles, les réglementations n'en touchent habituellement qu'un très petit nombre, souvent moins qu'une dizaine selon les pays. Seuls, au mieux, une trentaine de PFAS sont détectés et exigés par les méthodes d'analyse actuelles. On parle d'un décalage immense. De plus, plusieurs des nouvelles formulations de PFAS sont appelées des précurseurs, puisqu'elles peuvent se dégrader dans l'environnement et se transformer en d'autres PFAS, dont le PFOA ou le PFOS, les deux molécules bannies. la complexité du nombre de molécules et leurs propriétés uniques rendent l'analyse des PFAS complexe et difficile. De plus, leur omniprésence dans l'environnement réduit la fiabilité des résultats de laboratoire qui peuvent être contaminés si la préparation d'échantillons et les procédures ne sont pas appropriées, surtout pour l'analyse de l'eau potable. Il est aussi important d'intégrer un maximum de PFAS possible aux suivis environnementaux afin d'éviter qu'un ou plusieurs composés particulièrement problématiques échappent au suivi. Des contaminants qui s'accumulent dans les tissus. Leur persistance et leur capacité à s'accumuler dans les tissus des organismes vivants, bioaccumulation, font en sorte qu'on les retrouve en haut des chaînes alimentaires. On les détecte notamment chez les mammifères marins de l'Arctique, ce qui impacte les populations principalement autochtones qui en dépendent pour se nourrir. On assiste ainsi à une injustice environnementale puisque ces communautés subissent les effets d'une pollution à laquelle elles n'ont aucunement contribué. En plus de leur persistance dans l'environnement, plusieurs PFAS sont également persistants dans le corps humain. Même en réduisant l'exposition à ces contaminants, les PFAS peuvent prendre des années à être éliminés de l'organisme. En raison de l'exposition ubiquitaire et de cette persistance, plusieurs PFAS sont détectés dans la quasi-entièreté des échantillons de sang récoltés dans le cadre de l'enquête canadienne sur les mesures de santé menée par le gouvernement fédéral. Une étude canadienne a par ailleurs démontré que ces contaminants se retrouvent également dans les échantillons de sang du cordon ombilical et dans le lait maternel. Nous portons donc des traces de PFAS dans notre organisme dès notre conception. L'épineuse question du traitement des eaux usées. Les propriétés chimiques des PFAS les rendent aussi particulièrement difficiles à éliminer quand ils se retrouvent dans notre eau potable ou notre eau usée. Les traitements usuels pour l'eau potable enlèvent très peu ou pas du tout des PFAS présents dans l'eau. Des investissements significatifs sont donc nécessaires pour modifier les procédés de traitement dans le but de les éliminer. De plus, le traitement de l'eau usée peut augmenter très significativement les concentrations de PFAS dans les boues d'épuration, principales déchets issus du processus d'épuration. Ces boues, aussi appelées biosolides, contiennent bien souvent des concentrations de PFAS comparables aux niveaux ambiants détectés ailleurs. Mais si les eaux usées contiennent des rejets d'un procédé industriel ou commercial qui utilise les PFAS, les biosolides qui en résultent pourraient être très contaminés aux PFAS. L'État du Maine a même légiféré pour interdire toute forme de valorisation des boues municipales d'épuration des eaux usées. Dans cette ère de réchauffement global, où l'on doit tout mettre en action pour réduire nos émissions de carbone, cette interdiction semble mal avisée et signifie que les boues devraient être incinérées en brûlant vraisemblablement des hydrocarbures. On parle alors, évidemment, d'un bilan carbone abominable. La solution pour pouvoir valoriser les biosolides passe par une meilleure réglementation de l'utilisation des PFAS pour prévenir leur apparition dans les eaux usées et les boues d'épuration municipales. On peut aussi très bien vérifier les concentrations dans les biosolides avant leur valorisation et ainsi éviter les risques de contaminer nos sols en établissant des seuils de PFAS à ne pas dépasser. Nous veillons actuellement à la réalisation de cet objectif en collaboration avec le ministère de l'Environnement du Québec. Le dossier des PFAS est particulièrement complexe. Les experts et les diverses agences de protection de l'environnement du monde n'étant pas encore capables de trouver un consensus pour définir ce qui est sécuritaire. Nous devrions être particulièrement vigilants et appliquer le principe de précaution qui stipule que une substance doit être considérée comme potentiellement nocive pour la santé humaine et pour l'environnement jusqu'à preuve du contraire. Il importe également de mieux réglementer cette famille de polluants inquiétants qui se retrouvent absolument partout. C'était « Voici ce que vous devez savoir sur les PFAS » que l'on surnomme « polluants éternels », un texte de Sébastien Sauvé et Marc-André Werner, paru le 20 décembre 2020 dans « La conversation ».
Voilà pourquoi il est déconseillé de prendre une douche pendant un orage. Un texte de James Rawlings, paru le 16 décembre 2022 dans La Conversation. Le Met Office, Service national britannique de météorologie, a émis plusieurs alertes d'orage jaune pour le Royaume-Uni, soulignant le potentiel d'éclairs fréquents. Bien que la probabilité que vous soyez frappé par un éclair soit faible, il est important de savoir comment demeurer en sécurité pendant un orage. Chaque année dans le monde, environ 24 000 personnes sont tuées par la foudre et 240 000 autres sont blessées. La plupart des gens connaissent les règles de sécurité de base en cas d'orage, comme éviter de se tenir sous les arbres ou près d'une fenêtre et ne pas utiliser un téléphone filaire. Les téléphones cellulaires sont sans danger. Mais saviez-vous que vous devriez vous abstenir de prendre une douche, un bain ou de laver la vaisselle pendant un orage? Pour en comprendre la raison, il faut d'abord expliquer un peu comment fonctionnent les orages et les éclairs. Deux éléments fondamentaux favorisent le développement d'un orage: l'humidité et l'air chaud ascendant, qui vont bien sûr de pair avec la saison estivale. Les températures élevées et l'humidité crée de grandes quantités d'air humide qui s'élèvent dans l'atmosphère. Cette masse d'air peut alors se transformer en orage. Les nuages contiennent des millions de gouttelettes d'eau et de glace et leur interaction est à l'origine de la foudre. Les gouttes d'eau qui montent entrent en collision avec les gouttes de glace qui tombent, leur transmettant une charge négative et repartant avec une charge positive. Lors d'un orage, les nuages agissent comme d'énormes générateurs Van de Graaff, séparant les charges positives et négatives pour créer de gigantesques différences de charges à l'intérieur des nuages. Lorsque les nuages orageux se déplacent au-dessus de la Terre, ils génèrent une charge contraire dans le sol et c'est ce qui attire l'éclair vers celui-ci. L'orage cherche l'équilibre et il le trouve en se déchargeant entre les régions positives et négatives. Le trajet de moindre résistance est généralement emprunté par ce courant. Les objets offrant une plus grande conductivité, comme le métal, sont plus susceptibles d'être frappés pendant une tempête. Le meilleur conseil en cas d'orage est le suivant: lorsque le tonnerre gronde, rentrez sans perdre une seconde. Toutefois, cela ne signifie pas que vous êtes totalement à l'abri. Certaines activités à l'intérieur peuvent être presque aussi risquées que de rester dehors pendant la tourmente. À moins que vous ne soyez assis dans un bain à l'extérieur ou que vous ne preniez une douche sous la pluie, il est incroyablement peu probable que vous soyez frappé par la foudre. Mais si un éclair atterrit sur votre maison, l'électricité empruntera le trajet de moindre résistance jusqu'au sol. Des éléments tels que des fils métalliques ou de l'eau dans vos canalisations constitue un chemin conducteur idéal que le courant peut suivre pour rejoindre la Terre. La douche fournit ces deux choses, eau et métal, ce qui en fait un itinéraire parfait pour l'électricité. Une bonne douche apaisante pourrait se transformer en quelque chose de beaucoup moins relaxant. Aux États-Unis, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, Centers for Disease Control and Prevention, encouragent fortement les gens à éviter toute activité en rapport avec l'eau pendant un orage, même la vaisselle, afin de réduire le risque d'être touché. D'autres dangers sont à craindre pendant un orage. L'un d'entre eux, qui peut ne pas sembler évident, consiste à s'appuyer sur un mur en béton. Bien que ce matériau ne soit pas lui-même très conducteur, s'il a été renforcé par des poutres métalliques, appelées barres d'armature, celles-ci peuvent représenter un bon chemin pour la foudre. Évitez également d'utiliser tout ce qui est branché sur une prise électrique, ordinateur, téléviseur, machine à laver, lave-vaisselle, car tous ces appareils peuvent constituer des voies d'accès pour l'éclair. En règle générale, si vous pouvez entendre le tonnerre au loin, alors vous êtes suffisamment proche de l'orage pour que la foudre vous atteigne, même s'il n'y a pas de pluie. Les foudroiements peuvent se produire jusqu'à 16 km de l'orage dont ils sont issus. En principe, une demi-heure après avoir entendu le dernier coup de tonnerre, on peut retourner sous la douche en toute sécurité. Les orages aiment généralement une finale en apothéose, et la dernière chose que vous souhaitez, c'est faire partie du feu d'artifice. C'était « Voici pourquoi il est déconseillé de prendre une douche pendant un orage », un texte de James Rawlings, paru le 16 décembre 2022 dans La Conversation.
Vous pouvez écouter cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, Lynn Lamarche et Jocelyne Langevin à la lecture, Diane Métayer et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Vartman à la présentation et au montage.